Ce matin, nous allons examiner ce récit de la transfiguration. Et j'aimerais, avant de revenir sur ce texte, que nous lisions un autre passage dans lequel l'apôtre Pierre nous relate, en fait, ce qu'il a vécu et comment il a été marqué par cet événement. Et c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 16 à 20. 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaines les paroles prophétiques à la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et après cet éclairage sur le texte de ce matin, je vous invite, pour ceux qui ont une Bible, à la garder ouverte devant vous pour l'étude de ce passage, parce que ce sera, comme vous en avez l'habitude, une prédication-exposition, c'est-à-dire une prédication suivie du texte biblique de Luc, chapitre 9, versets 27 à 36. Pour bien comprendre ce texte, il faut d'abord le resituer dans son contexte. Au début du chapitre 9, Jésus vient de confier une mission aux 12 apôtres. Il leur a donné le pouvoir et l'autorité pour accomplir leur mission. Verset 1er. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Cette mission que Christ donne à ses apôtres est celle de chasser des démons, guérir les maladies et prêcher la bonne nouvelle du royaume. Puis, par la multiplication des pains qui a lieu dans les versets 10 et suivants, 10 à 17, Jésus leur montre, en fait, leur rôle dans cette proclamation de l'Évangile. Ils n'ont pas à créer les choses de toutes pièces. Ils ont simplement à prendre ce qu'ils reçoivent du Seigneur, comme les pains, et à les distribuer aux foules. Ainsi, les foules seront pleinement rassasiées et les disciples eux-mêmes ne manqueront de rien, puisqu'à la fin de la multiplication des pains, il reste un panier plein pour chaque disciple. Puis, dans les versets 18 à 27, Jésus indique aux disciples quel prix ils auront à payer dans une telle mission. Il y aura, leur dit-il, de l'incompréhension de la part du monde. Il y aura le sacrifice de toute leur vie qui implique le renoncement à eux-mêmes en se chargeant chaque jour de leur croix afin de suivre le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur n'a rien caché des difficultés qui attendent ses disciples, comme il ne nous cache pas, à nous non plus, la réalité de la vie chrétienne, avec ses souffrances, ses renoncements, ses difficultés. Il nous a annoncé que tous ceux qui voudraient vivre pieusement seraient persécutés d'une certaine manière, qui ne seraient pas toujours, et qu'il ne faut pas être trop surpris lorsque de telles choses arrivent. Mais en même temps que Jésus leur annonce les souffrances et la difficulté dans le ministère, il leur fait aussi une promesse extraordinaire. Au verset 27, il leur dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Et sans doute que Jésus, ici, par cette promesse, ne fait pas référence au royaume à venir de Dieu, mais au récit qui va venir 8 jours plus tard, celui de la transfiguration, qui allait être, comme si vous voulez, l'expression, la manifestation du royaume de Dieu, là sur la terre. La transfiguration, ce texte que nous allons lire ce matin, est en quelque sorte, on pourrait dire, une porte ouverte sur la gloire à venir. Une porte ouverte sur la gloire de notre Seigneur. Pardon. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fenêtre qui allait encourager les disciples dans cette mission difficile qui allait être la leur. Et par cet enchaînement, dans ce chapitre 9, vous voyez, on voit toute la bonté du Seigneur. Il ne laisse pas uniquement les apôtres avec leur mission et l'annonce des souffrances, mais il leur accorde aussi la grâce particulière de voir sa gloire. Il le fait pour 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui allaient avoir les plus grandes responsabilités dans l'Église naissante. Et nous avons là tout de suite, je pense, une application pour nous ici, parce que cette transfiguration nous montre que la grâce de Dieu n'est pas égalitaire. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de donner mon témoignage tout à l'heure, pour vous montrer que les voies de Dieu sont différentes. Il y avait 12 apôtres. Pourquoi il y en a seulement 3 et pas 4 qui montent sur la montagne? Ça aurait fait du bien aux 12. Pourquoi? Et pourquoi ces 3 et pas 3 autres? Et pourquoi toujours les 3 mêmes? Chaque fois que Jésus en prend 3 à part, c'est toujours les 3 mêmes, Pierre, Jacques et Jean. Parce que la grâce de Dieu n'est pas égalitaire. Ces 3 hommes allaient avoir une mission particulière. C'est eux qui allaient être les responsables de l'Église naissante. C'est eux qui allaient, peut-être plus que les autres, devoir faire face aux affronts, à la critique, à l'opposition. C'est ceux dont on va retrouver la trace beaucoup plus dans le livre des Actes et dans le Nouveau Testament. Et il en est aussi ainsi dans nos vies. Pourquoi certains naissent-ils dans une famille chrétienne? Pourquoi d'autres naissent-ils ailleurs? Pourquoi d'autres se convertissent enfants, d'autres sur leur lit de mort? Pourquoi certains ont plus d'épreuves que d'autres? Mystère. Mystère. On doit s'en remettre à la providence parfaite de Dieu et dire, toi Seigneur, tu sais. Parce que tu sais quelle va être ma mission, quelle va être la tâche que tu vas me confier à moi. Et tu as un chemin unique pour moi et tu en as un autre pour les autres. C'est une première leçon, là, simplement déjà dans notre introduction, avant d'arriver au texte lui-même. Et maintenant, nous entrons dans cette transfiguration et nous allons voir la manifestation de la gloire divine. C'est le titre pour ce matin. La manifestation de la gloire divine. Au verset 29, nous voyons la gloire du Fils. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Jusqu'ici, malgré les miracles extraordinaires que Jésus avait déjà faits, sa puissance divine avait été vue, mais sa gloire avait été voilée. Comme le dit le cantique, il a voilé l'éclat de sa divinité. Il a voilé l'éclat de sa divinité sous, on pourrait dire, le voile de son humanité. Mais là, sur la montagne, alors qu'il est en prière, tout d'un coup, ce voile de l'humanité se déchire, si vous voulez. Et on voit la gloire du Fils de Dieu. L'aspect de son visage change, nous dit le verset. Il devient resplendissant comme le soleil. C'est le texte parallèle de Matthieu 17 qui nous le dit. De sorte que même ses vêtements resplendissent cette gloire en devenant d'une blancheur immaculée, inconnue sur la terre. Aucune lessive ne lave blanc comme ça. Par cette lumière, les disciples qui semblaient assoupis, comme c'est souvent le cas malheureusement quand ils devraient être en train de prier, sont réveillés. Et que voient-ils ? Ils voient un peu de cette gloire du Seigneur pour quelques instants. Cette gloire était tellement extraordinaire qu'elle a bouleversé Pierre. Et qui peut dire dans cette deuxième épître qu'on a lu tout à l'heure, c'est pas des fables. C'est vrai, j'ai vu la gloire du Seigneur. Il est vraiment Dieu. Et je peux tenir sa parole pour certaine. Cette gloire que Jésus allait retrouver dans le ciel après sa résurrection, au moment de son ascension, lorsqu'il demandait à son Père, dans la prière sacerdotale, de retrouver la gloire qu'il avait quittée lorsqu'il est descendu prendre l'humanité, la nature humaine sur lui. C'est sans doute l'une, pour pas dire l'expérience, la plus extraordinaire qui puisse être donnée à un homme de vivre. Voir la gloire de Dieu. Ce qu'il y a de plus brillant, de plus lumineux, de plus glorieux et même d'insoutenable au regard humain. Comme c'est impossible de voir le soleil, de regarder le soleil en face. Ces trois disciples avaient en face d'eux le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui soutient toutes choses, le Rédempteur, la deuxième personne de la Trinité. Quelle gloire, n'est-ce pas? Voilà, mes chers amis, quel est le Seigneur qui vous a sauvé. Le Seigneur qui est actuellement assis à la droite de Dieu. Le Seigneur en qui vous avez placé votre foi. Le Seigneur que vous adorez ce matin. Le Seigneur qui reviendra et que vous rencontrerez. Le Seigneur que vous devez prêcher. Le Seigneur que vous devez servir. Le Seigneur que vous devez suivre, ce n'est pas juste un être humain dont on suit le modèle. C'est Dieu le Fils manifesté parmi les hommes, mort et ressuscité pour notre réconciliation. Lorsqu'il reviendra, vous qui croyez en lui, il comblera vos regards. Il comblera votre attente. Et vous serez éternellement satisfait et rassasié par sa présence. Mais s'il en est parmi nous ce matin qui ne croit pas,
qui n'ont pas placé leur foi en Christ. Il faut que vous sachiez que c'est ce Seigneur-là aussi que vous rencontrerez. Un Seigneur glorieux dont vous ne pourrez pas soutenir le regard. À tel point que l'Apocalypse dit que quand le Seigneur vient, ceux qui ne croient pas en lui disent aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous. On ne peut pas soutenir la gloire du Seigneur. C'est là un appel pour vous. À vous approcher pendant qu'il est temps de ce Seigneur glorieux, plein de grâce, qui sauve celui qui vient à lui dans la repentance et la foi. Voilà la gloire du Fils qui a été vue par les trois disciples. La gloire qui nous sera donnée de contempler lorsque nous le verrons à notre tour. Mais les disciples n'ont pas seulement vu la gloire du Fils. Ils ont aussi vu deux hommes qui étaient avec lui. Et ces deux hommes, dans les versets 30 et 31, nous enseignent sur la sécurité des rachetés ou la sécurité des croyants. Alors, on a vu la gloire du Fils, c'était le premier point. Maintenant, versets 30 et 31, la sécurité des rachetés. Et je relis ces versets. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Lorsque les disciples voient Jésus transfiguré, il n'est pas seul. Il est accompagné de deux croyants de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Maintenant, expliquez-moi comment est-ce que Pierre, Jacques et Jean savent que c'est Moïse et Élie. Il n'y avait pas de photo, pas d'appareil numérique. Comment pouvez-vous savoir que c'était Moïse et Élie? Le texte ne le dit pas. Alors, il ne faut pas être trop curieux. Mais on peut imaginer très bien que Moïse et Élie étaient là avec les signes distinctifs de leur ministère. Moïse, peut-être, avec les deux tables de la loi. Élie, avec son vêtement de poil de chameau. On ne sait pas. Mais c'était deux êtres qui étaient dans l'au-delà. Certains disent qu'ils n'étaient pas morts. C'est vrai pour Élie. Élie est parti sur un char de feu, mais ce n'est pas vrai pour Moïse. Parce qu'on a la fin du Deutéronome qui nous dit « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée. » Ce qu'on doit penser, c'est que ces deux hommes, en fait, si vous voulez, sont représentatifs des personnages de l'Ancien Testament. Moïse est le représentant de la loi. Élie est le type des prophètes. Et c'est sans doute par leurs signes distinctifs qu'ils les ont reconnus. C'est comme pour vous, si vous devez aller à l'aéroport ou à la gare, attendre quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qu'on vous dit que c'est un guitariste, vous allez voir si vous trouvez quelqu'un avec une guitare. Si on vous dit que c'est un pasteur, je ne sais pas si vous allez chercher, mais peut-être une cravate, une attachée-caisse, ou une Bible, j'espère, au moins. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les disciples les ont reconnus. Et si Dieu a donné des corps glorieux à ces deux hommes, qui étaient dans leur âme seulement auprès de Dieu, pour quelques instants, je crois que c'est pour nous enseigner une vérité sur la sécurité des chrétiens qui sont déjà morts. C'était quelque chose d'important pour les disciples. Les trois disciples qui sont là allaient mourir martyrs. Et il fallait qu'ils sachent que même s'ils mouraient martyrs, leur âme était en sécurité auprès de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. En leur envoyant Moïse et Élie, là, il leur dit, mais regardez, Moïse et Élie, ils ne sont pas dans le purgatoire. Ils ne sont pas dans un espèce de trou sombre et gluant. Ils sont dans la présence même du Seigneur glorieux. Dans leur âme, certes, parce qu'ils attendent encore la gloire à venir, le corps nouveau, mais ils jouissent déjà de la félicité dans la présence de Dieu. C'est ce qui est bien démontré, cette sécurité de l'âme des rachetés, lorsque Pierre suggère de monter 3 tentes sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait cette suggestion au verset 33 ? Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et que fait l'Éternel ? Il envoie sa nuée. La nuée qui était descendue sur le tabernacle, la nuée qui était descendue sur le temple, et il couvre Jésus, Moïse et Élie, et il reprend Moïse et Élie auprès de lui. Et on a l'impression qu'il leur dit, ils sont dans ma tente. J'ai pas besoin de tes tentes. Ils sont dans ma présence. Ils sont en paix auprès de moi. Et à nous qui sommes vivants, cette présence d'Élie et de Moïse nous rappelle qu'il existe une vie après la mort. Et que ceux qui sont morts en Christ sont en sécurité dans la main de Dieu en attendant le retour glorieux du Seigneur. Mais c'est sans doute pas la seule raison pour laquelle Moïse et Élie ont été choisis et ont apparu lors de la transfiguration. Il y a une autre raison, c'est pour nous montrer l'unité de l'Évangile. Verset 31. Depuis le verset 30, parce qu'autrement on est au milieu d'une phrase. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ce qui est frappant là, c'est de voir le sujet de l'entretien entre Moïse, Élie et Jésus. De quoi est-ce qu'ils causent ? Ils ne parlent pas du ciel. Ils ne parlent pas de la pluie et du beau temps. Ils parlent de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ou on peut traduire plus littéralement de son exode. C'est une expression qui fait référence là à la mort du Seigneur. Parce que la mort du Seigneur est présentée ici comme un exode, parce que c'est par elle que vient la libération de l'esclavage du péché, dont la libération de l'esclavage d'Égypte était le type. Et voyez, c'est frappant de voir que Moïse, Élie et Jésus causent, ils parlent de la mort de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que c'est l'événement central de l'histoire humaine. Parce que sans la mort du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Sans la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas de réconciliation possible avec Dieu. Et les croyants de l'Ancien Testament le savaient très bien. C'est pourquoi, nous dit Pierre, ils faisaient de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'autre salut que celui que Dieu avait promis par le Messie. Et on le voit ici encore avec Moïse et Élie. Le salut de Christ est l'objet de leurs préoccupations, même s'ils sont venus longtemps avant lui, même s'ils ont eu d'autres missions, eux, dans l'histoire de la révélation. Parce que dans leur mission, leurs yeux étaient fixés vers les promesses de Dieu. Vers l'avant, ils attendaient l'exode du Fils de Dieu qui allait avoir lieu à Jérusalem. Et là, ils le savent, Christ va mourir
pour libérer son peuple de ses péchés. Et cela aura lieu à Jérusalem. Parce qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Et vous voyez, la présence de Moïse, Élie et de Jésus ici nous montre la grande unité qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Christ est venu accomplir la loi et les prophètes. Il le dit lui-même. Christ est venu pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Alors, dans votre lecture de la parole de Dieu, dans votre proclamation de l'Évangile, n'opposez pas l'Ancien et le Nouveau Testament. La présence de Moïse et d'Élie vous disent ici, la parole de Dieu n'a qu'un message de salut. C'est la croix du Christ. Ne cherchez pas la réconciliation ailleurs qu'en lui. Quelle expérience glorieuse pour ces trois apôtres. Sur cette montagne, ils ont vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu la sécurité des rachetés. Ils ont vu l'unité de l'Évangile. Et pour terminer, il faut considérer alors l'incompréhension humaine face aux expériences glorieuses. Et c'est assez humiliant pour nous de devoir terminer en considérant un petit peu ce qui s'est passé avec Pierre dans la fin de ce récit, les versets 32 à 36. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Pierre, Jacques et Jean sont en train de vivre l'un des moments les plus forts, les plus glorieux de toute l'histoire humaine. Ils voient la gloire de Dieu. Une expérience exaltante par-dessus tout. Et au moment où Pierre sent que ça va s'arrêter, on ne sait pas s'ils se serrent la main ou s'ils se font la collade, ou ils vont se séparer, là, Jésus, Moïse et Élie, il fait une suggestion. Il dit, si on faisait un petit camping là-haut, et puis qu'on reste encore ensemble, c'est tellement bon d'être ensemble. Et Dieu lui dit que sa proposition est insensée. Il ne savait pas ce qu'il disait. C'est triste, hein? L'apôtre Pierre, dans un instant glorieux, il réfléchit pas trop, ou il cause avant de réfléchir, comme il fait toujours, pas toujours, mais très souvent, et puis comme on fait parfois, nous aussi. Et puis le Seigneur lui dit, « Tu ne sais pas ce que tu dis. » En fait, ce que Pierre est en train de dire, il va dire, « Seigneur, garde-nous sur la montagne. Seigneur, prolonge cette expérience glorieuse et qu'elle ne s'arrête jamais. » Ou on pourrait dire, « Seigneur, fais descendre le ciel sur la terre pour qu'on soit au ciel tous les jours, tout le temps. » Et Dieu lui répond, « Tu ne sais pas ce que tu demandes, mon cher. Pour le moment, tu es encore sur la terre. Et la réponse de Dieu à la suggestion de Pierre ensuite est d'envoyer sa voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Par cette phrase, le Père est en train d'opposer la vue à l'écoute. Comme Jésus le fera un peu plus tard avec Thomas, hein, qui veut toujours voir. Et Jésus lui dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Vous voyez, Dieu est en train de faire comprendre aux disciples ici qu'ils n'ont pas encore atteint la gloire finale et qu'elle ne s'atteint pas ici-bas. Et que ces expériences intenses, alors, ne peuvent pas durer toujours. Que ce n'est pas elles qui doivent nous conduire, mais la parole du Seigneur. Par cette phrase, le Père remet les choses dans leur juste perspective. On a besoin de se rappeler ça. Ce n'est pas les expériences extraordinaires qui nous guident, mais la parole du Seigneur. Parce que Dieu a parlé par lui, par le Fils, en ces temps qui sont les derniers. Alors, oui, Dieu peut nous accorder des moments d'intimité avec lui extraordinaires. Il peut nous accorder des moments sur la montagne comme ça aussi. Et il le fait parfois quand on est seul, dans notre culte personnel, parfois en famille, parfois en église. C'est vrai. On peut dire parfois, il y a une onction particulière de Dieu. Il y a la présence particulière de Dieu. Et on aurait aussi tendance à dire, nous, dressons trois tentes, un petit camping, vite. On reste là, toute la semaine, dans cette pièce. Mais écoutez, rappelez-vous ce que le Seigneur dit, non ? C'est un moment extraordinaire. Il peut vous fortifier, vous encourager. Mais ce qui compte, c'est la parole du Seigneur. Voyez, la fin de cette transfiguration est une dénonciation claire de la façon dont certains évangéliques vivent leur foi chrétienne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent d'aller de montagne en montagne, c'est-à-dire de convention en convention, sans redescendre dans la vallée, en essayant de planer jusqu'à la montagne suivante. Ils vont de sommet en sommet, de nuée en nuée. La parole de Dieu leur importe peu. Ce qui importe, c'est l'intensité de l'émotion. Mais le Père dénonce cette façon de vivre. Il retire Moïse et Élie. Il retire la gloire, la manifestation de la gloire du Fils. Et tout à coup, là, le Fils est là, on pourrait dire, normal, c'est-à-dire à nouveau couvert, sa gloire couverte de son humanité. Et le Père dit à ses disciples, écoutez-le. Ils vont devoir redescendre de la montagne. Et c'est la façon dont nous avons à vivre aussi aujourd'hui dans ce monde. Et si on avait le temps de suivre et de voir la suite du verset, on verrait que l'atterrissage était d'autant plus rude qu'ils sont arrivés ensuite dans la vallée avec les 9 autres disciples qui n'arrivaient pas à chasser un esprit mauvais. Et le Fils a dû blâmer les disciples pour leur manque de confiance dans le Seigneur. Voyez, la fin de cette transfiguration nous replace, nous, chacun, dans la bonne perspective. Vous êtes peut-être un peu comme Pierre. On est tellement bien ici. On célèbre notre Seigneur, on écoute sa parole, on est entre chrétiens, et il va falloir retourner demain faire face à ces collègues ronchons,
à cette vie difficile, etc., à ce boulot pénible ou gnangnan, etc., etc. Hein? Et puis on aurait envie de dire, « Oh Seigneur, peut-être pas de raison une tente, mais garde-nous ici, on est tellement bien. » Rappelez-vous ce que le Seigneur nous dit. Après nous avoir fortifiés, hein, vous êtes là pour être la lumière du monde, le sel de la terre. Et votre mission, c'est maintenant, fortifiée par cette expérience et par cette parole, d'aller rendre témoignage du Seigneur là où il vous a placé. Alors, vous allez redescendre d'abord les marches d'escalier, puis ensuite tout le bienfait que le Seigneur vous a donné. N'oubliez pas sa gloire. Il est glorieux, même si on ne le voit pas ainsi. N'oubliez pas que les rachetés sont en sécurité. Et que quoi qu'il vous advienne, vous qui êtes ses enfants, vous êtes dans la main du Père et nul ne vous ravira de sa main. Jamais. C'est votre statut éternel. N'oubliez pas que l'Évangile est un tout harmonieux dont la mort et la résurrection du Christ sont le centre. Et n'oubliez surtout pas que malgré les expériences glorieuses que le Seigneur peut vous accorder, c'est sa parole qui vous conduit. C'est sa parole qu'il vous faut prêcher. C'est selon sa parole qu'il vous faut vivre si vous voulez être un fidèle témoin du Seigneur au XXIe siècle, comme les apôtres l'ont été au début de l'ère de l'Église et comme les croyants, nos pères dans la foi, l'ont été tout au long de l'histoire de l'Église.